Bonjour à tous et on reprend donc le chemin traditionnel du coup de main pour l'emploi à l'antenne de Sud Radio. À savoir cette perspective de faire un focus, de mettre en exergue un recrutement, une formation, un métier, en le verbalisant, autrement dit en faisant ressortir les éléments les plus importants. Et pour ce faire aujourd'hui, nous accueillons Michael Bozek du groupe De Richebourg, dans la perspective d'un certain nombre de recrutements, je crois, sur le secteur de l'éclairage public. Michael Bozek, bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire, donc, alors tout d'abord, bonne année, hein, faut continuer là, on est obligé là pendant tout le mois de janvier. Et si l'année doit être bonne, est-ce qu'elle sera ponctuée de recrutements qui sont dans ce secteur? Comment vous pouvez nous les présenter aujourd'hui?
Oui, donc De Richebourg Énergie EP est une filiale de De Richebourg Multiservices. Donc, nous sommes spécialisés dans tout ce qui est éclairage public, infrastructure urbaine, électrification des réseaux et vidéosurveillance, qui sont nos principales activités.
Alors, gros recrutement sur ce secteur ou pas?
Voilà, donc sur toute la partie vidéosurveillance, effectivement, avec l'arrivée de nouveaux clients et de nouveaux défis concernant cette activité. Donc aujourd'hui, nous sommes en recherche de profils bien spécifiques liés à cette activité.
Alors quand vous dites bien spécifiques, c'est-à-dire des gens qui aient de l'expérience sur ce secteur de la vidéosurveillance?
Dans l'idéal, oui. Pour tout ce qui est technicien, ça serait entre 2 et 3 ans d'expérience, avec des compétences liées au système logiciel Genetec et Milestone. Et après, un petit peu plus d'expérience encore dans le cadre des chefs d'équipe.
Oui, dites-moi.
Donc, où là, 5 ans d'expérience serait une plus-value par rapport aux recherches que nous avons besoin.
Et est-ce que vous formez également vos futurs collaborateurs? Est-ce que vous avez des parcours de formation, d'intégration?
Oui, bien sûr. Donc les profils plus intéressants, connaissant Genetec ou Milestone, sont effectivement des plus. Néanmoins, dans le cadre des process de formation que nous avons au niveau du groupe, aujourd'hui, même sans ces formations-là, nous poursuivons le développement de nos collaborateurs sur ces solutions.
Alors, quels sont les types de contrats que vous proposez dans le cadre de ces recrutements?
Principalement des CDI.
D'accord. Est-ce qu'il y a la possibilité de passer d'une région à une autre? Est-ce que ce sont des postes évolutifs? Comment vous venez nous les décrire dans l'inscription dans le temps et dans l'espace?
Aujourd'hui, c'est des contrats qui sont évolutifs, oui, c'est-à-dire aujourd'hui, vu qu'on est une entreprise jeune et dynamique, globalement, beaucoup de marchés qui arrivent, beaucoup de nouveaux challenges, donc effectivement des progressions, une croissance qui permettent d'évoluer au sein de la société. Après, sur les profils, sur le côté géographique, on est beaucoup basé en Île-de-France sur la partie vidéosurveillance. On peut avoir effectivement d'autres marchés ailleurs. Néanmoins, la principale activité reste en Île-de-France.
D'accord. Et est-ce que sur les postes, sur un technicien, il y a la possibilité d'évoluer sur un poste de chef d'équipe avec une formation de managériale, pourquoi pas?
Oui, bien sûr. Là-dessus, on a beaucoup de développement interne au niveau de nos employés qui permet justement cette croissance sociale. donc oui, étant jeune, comme je vous dis, aujourd'hui, nous avons vraiment cet ascenseur social est existant.
D'accord. Quels sont les types de profils, en tout cas expérimentés, qui viennent sur ce type de poste? Pourquoi viennent-ils au sein de vos équipes? Quelle est l'évolution que ce recrutement va supposer pour eux?
Principalement, comme je vous dis, nouveau challenge. Par rapport à beaucoup de nos concurrents, nous sommes une société qui reste jeune, qui n'a pas une ancienneté énorme, vu que la société a à peu près 7 ans. Donc aujourd'hui, on a justement besoin de nouvelles ressources pour pouvoir faire avancer la société. Donc, ce qui a beaucoup d'opportunités, étant donné que rien n'est figé dans le temps, avec l'évolution naturelle de la société.
Eh bien, écoutez, mille merci, Michael Bozek, de ce focus sur des perspectives de recrutement qui sont ô combien intéressantes, puisque, attention, CDI à la clé. Je vous remercie et je vous souhaite à nouveau une très, très bonne année. Michael Bozek, merci beaucoup.
Merci bien. Au revoir.
À bientôt, au revoir.
Le Grand Matin Sud Radio, 5h-7h, Frédéric Brindel. Et je peux vous dire que nous sommes tous en forme à Sud Radio pour vous accueillir. 6h24, nous sommes le 11 janvier. C'est l'anniversaire de beaucoup de comiques aujourd'hui. Albert Dupontel, 58 ans. Philippe Chevalier, Chevalier Las Palès, hein. Mais Philippe Chevalier, 66 ans. Et puis deux immenses acteurs. Jacqueline Maillan, décédée en 92. Et Bernard Blier était né un 11 janvier. Bernard Blier, décédé en 89 déjà. Écoutez cet extrait magnifique dans Un idiot à Paris, un film de Serge Corbert de 67, lié patron face à ses ouvriers en grève dans l'abattoir de bœuf.
30 tonnes de barbac sur le carreau alors qu'on meurt de faim à Chandernagore, hourra. Monsieur Grafouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés, c'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste, des chômeurs en puissance. C'est pourquoi, mes amis, si vous avez des revendications de salaire à formuler, vous m'adressez une note écrite et je la fous au panier et on n'en parle plus. Nous sommes bien d'accord ?
Oui,
monsieur. Allez, au boulot et à pas vite !
Voilà le dialogue social vu par Michel Audiard. Et puis un 11 janvier 1962, croisière et inauguration du paquebot France devenu le Norway et puis le Blue Lady. Et à l'inauguration, le président de la République de l'époque, le général de Gaulle.
Le paquebot France est lancé. Il a épousé la mer.
Ne m'appelez plus jamais France. La France, elle m'a laissé tomber. Ne m'appelez plus jamais France. C'est ma dernière.
Oh, cette chanson de Michel Sardou. Dans un instant, les pronostics de Jean-Paul Delperrier, puis la météo. Nous revenons tout de suite, 6h26.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai. Vrai Sud Radio.
Parlons vrai.
Voilà la réaction d'un cheval quand Jean-Paul Delperrier leur parle à l'oreille. Échange, et là, il a l'info et il vous la donne. Nous partons pour les pronostics. Ça court à Vincennes, cher Jean-Paul Delperrier, aujourd'hui.
Eh oui, bonsoir Frédéric, bonjour à vous tous. Le prix de Joinville, réunion une course une, support des paris à la carte sur le tracé des 2700 mètres avec 15 concurrents. J'ai fait confiance en parlant à l'oreille de Gritman de Busset, il m'a indiqué qu'il allait s'imposer aujourd'hui. Ah. Le 11 Gourou, incapable de les ensorceler, ça c'est une parenthèse. Le 9 Giorgio Fort viendra ensuite avec le 4 Guerrier Castellet, 7 Gino Viva, 3 Grigri Boy, 10 Georges L'Aventure et le 13 Guépard de Tilla. 6, 11, 9, 4, 7, 3, 10 et 13. En sélection du jour à Pornichet-la-Baule, en réunion 4, course 6, je vous conseille le 5, Penbull.
C'est noté, Jean-Paul Delperrier, pronostic à retrouver sur le site sudradio.fr.
La météo Sud Radio.
Il parle à l'oreille des nuages, lui, Rémi André. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, les nuages, cher Rémi?
Les nuages nous disent que ça s'arrange, c'est-à-dire que maintenant l'anticyclone est en train de s'installer, ce qui fait que nous aurons une fin de semaine plus calme, mais attention tout de même, avec tout ce qui est tombé ce week-end et ce début de semaine, nous avons donc encore des vigilances oranges, principalement donc à cause des crues de la Garonne, de ses affluents, hein, comme la Save, le Touche, le Gers, la Baïse, tout cela est en crue. Nous avons donc dans tout ce secteur du bassin de Garonne, des niveaux très hauts, soyons prudents. Nous avons également l'Adour, les Gaves qui sont encore en crue, donc grande prudence à cause de certaines routes qui restent barrées. On a encore eu des éboulements, donc soyons prudents dans tout ce secteur. Mais côté ciel, vous le disiez, ça s'arrange. De ce fait, bien cette nuit, le ciel qui était en partie dégagé nous a donné des températures proches de 0 degré sur la moitié est du pays, depuis, on va dire, les Hauts-de-France jusque vers la Provence, donc des températures bien fraîches. Sur le pourtour méditerranéen, c'est le soleil qui va dominer aujourd'hui, mais avec du vent, Mistral et Tramontane. Et sur la partie ouest, on aura encore pas mal de nuages, quelques gouttes encore au pied des Pyrénées, mais tout cela est en train de se calmer.
Eh bien, puisqu'on vous tient, on ne vous lâche pas. On vous retrouve dans un instant, cher Rémi André. Mais avant, il est 6h30 sur Sud Radio.
Sud Radio. Parlons vrai.
Plaisir de retrouver Mathieu Bélissario pour le journal de 6h30. Bonjour Mathieu.
Bonjour, bonjour à tous. Au sommaire de ce journal, protocole sanitaire une nouvelle fois allégé dans les écoles. Fini les tests PCR ou antigéniques. Désormais, 3 autotests suffiront pour les élèves cas contact, a annoncé hier soir Jean Castex. Vous l'entendrez. Nouvelle journée de colère dans le secteur médico-social. Des manifestations sont prévues partout en France pour demander plus de moyens face à la crise sanitaire. Et puis, on fera le point sur les inondations dans le sud-ouest. Il a beaucoup plu cette nuit, mais la situation s'améliore par endroits. L'alerte rouge au cru a d'ailleurs été levée dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Objectif, calmer la colère des enseignants et des parents. Jean Castex a dévoilé hier soir aux 20h de France 2 un nouveau protocole sanitaire pour les établissements scolaires. Protocole simplifié pour la deuxième fois en une semaine. Désormais, quand un cas positif sera détecté dans une classe, eh bien les parents n'auront plus à venir chercher leur enfant tout de suite. Ils pourront attendre la fin de journée. Autre changement, 3 autotests suffiront désormais pour les élèves cas contact, alors qu'il fallait jusqu'à présent un test PCR ou antigénique. Et pour faire face à la demande, eh bien des millions d'autotests vont être mis en vente, a précisé le Premier ministre. Écoutez.
Cette semaine, 11 millions d'autotests vont être livrés dans les pharmacies. On s'est posé la question, madame, de savoir si on n'en mettait pas dans les écoles. Mais là, la difficulté à laquelle nous nous heurtons, c'est que je ne voudrais pas gâcher la marchandise. On va en avoir. Mais voyez-vous, si je les mets dans des écoles, je risque d'en mettre beaucoup dans des écoles qui n'en auront pas besoin et pas assez dans des écoles qui en auront besoin. Donc, les autotests sont en pharmacie et je précise, les 3 autotests seront gratuits.
Et à noter que les parents n'auront plus besoin de faire une attestation pour chaque test négatif. Une seule suffira pour les 3. Reste à savoir maintenant si ce nouveau protocole sanitaire va réussir à convaincre. Une grève est toujours prévue jeudi dans les écoles à l'appel des syndicats d'enseignants et des fédérations de parents d'élèves. Après une adoption mouvementée la semaine dernière à l'Assemblée, le projet de loi sur le pass vaccinal est examiné cet après-midi au Sénat. Les sénateurs réunis en commission hier se sont déjà montrés favorables au texte. Le gouvernement espère désormais une entrée en vigueur de cette mesure au moins pour la semaine prochaine. Ils sont en première ligne depuis le début de la crise sanitaire. Nouvelle journée de mobilisation dans le médico-social. Plusieurs rassemblements sont prévus à travers tout le pays. Mobilisation à l'appel de plusieurs syndicats, dont la CGT Santé. La liste des revendications est longue. Alors, quel est le mot d'ordre de cette nouvelle journée d'action? Écoutez Patrick Bourdillon, secrétaire fédéral du syndicat CGT Santé Action Sociale.
Ah mais le mot d'ordre, ce sont les effets. Au niveau du médico-social, ce sont les maisons de retraite essentiellement. On est sur une attente d'avoir un minimum 200 000 postes. Si on fait le point, ce qui avait été fait dans le plan grand âge, c'est d'avoir un minimum soignant par résident. On voit qu'on est loin du compte et on voit que depuis les grandes grèves qui ont eu lieu dans les EHPAD il y a quelques mois, quelques années, on voit qu'en tout cas la situation ne s'est pas améliorée et que bien au contraire, on a des effectifs qui sont encore plus tendus et encore plus en baisse. Et la nécessité de remettre au cœur de la campagne électorale et en tout cas au cœur de ce que pourront dire les candidats, l'élément central qui est celui de la santé et de l'action sociale.
À propos recueilli par Boris Karlamov. Dans l'actualité également, il n'y a plus de département en alerte rouge ce matin. Les Landes et les Pyrénées-Atlantiques ont été rétrogradés en vigilance orange crue par Météo France. Dans certains endroits, c'est toujours l'inquiétude car l'eau continue de monter. Pour le moment, pas de gros dégâts constatés. Et heureusement, car à Oloron-Sainte-Marie, dans les Pyrénées-Atlantiques par exemple, eh bien, les habitants en ont assez. C'est déjà la deuxième fois en un mois que les pluies torrentielles s'abattent sur la ville. Un vrai ras-le-bol, comme nous l'explique Bernard Uturi, le maire d'Oloron-Sainte-Marie.
Tout le monde est un petit peu dans l'expectative et interrogé par la récurrence et la répétition de ces phénomènes-là. Nous pensions en être un petit peu à l'abri, hein. C'était une vue de l'esprit, bien sûr, hein. Mais ici comme ailleurs, moins qu'ailleurs certainement, mais nous sortons un petit peu d'une ère de paisibilité certainement inhérente à la proximité de l'océan qui nous apporte sa tempérance pour des épisodes climatiques de ce type-là. Voilà. Désormais, quand il neige, en deux jours, il neige 3 mètres et puis quand il neige pas, il fait 25 degrés à Noël. C'est assez récurrent comme phénomène.
Par ailleurs, sachez également que l'alerte orange au cru est maintenue ce matin dans le Lot-et-Garonne, le Gers, les Hautes-Pyrénées, le Tarn-et-Garonne et la Haute-Garonne. Vigilance orange également pour des risques d'avalanche dans l'Ariège et les Pyrénées-Orientales. On a appris la mort du président du Parlement européen, l'Italien David Sassoli, était hospitalisé depuis le 26 décembre dernier pour une pneumonie. Il avait 65 ans. On termine avec cette première mondiale. Des chirurgiens américains ont en effet réussi à greffer sur un patient de 57 ans le cœur d'un porc génétiquement modifié. L'opération qui a eu lieu vendredi s'est parfaitement déroulée. Une véritable prouesse qui pourrait être la solution à la pénurie de donneurs d'organes. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. C'est la fin de ce journal. Très belle matinée à l'écoute de Sud Radio.
C'était Mathieu Bélissario. Merci à vous. 6h35.
Le Grand Matin Sud Radio, 5h-7h, Frédéric Brindel.
Réveillez-vous bien, tranquillement, dans la bonne humeur. N'hésitez pas à faire le petit jeu des consultations sur le compte Twitter de Sud Radio et également sur Facebook. Les deux questions du jour, on en parlera tout à l'heure avec Cécile de Minibus et Patrick Roger. Première question, Emmanuel Macron veut doubler le nombre de policiers sur le terrain d'ici 2030. Pour vous, c'est 1. Une priorité, 2. Une promesse de campagne, 3. Insuffisant, 4. Une mauvaise idée. Ça, c'est la première question. Vous allez, vous faites votre petite consultation et nous regarderons. Deuxième question, Jean Castex au 20h. Que pensez-vous de l'allègement du protocole sanitaire à l'école ? 1. Cafouillage, 2. Raisonnable, 3. Risqué pour le personnel. Même chose, vous n'hésitez pas à réagir, tout comme vous êtes les bienvenus d'ailleurs sur le 0826 300 300. Petit tour des quotidiens nationaux, le système des parrainages sous le feu des critiques, c'est dans le Figaro. C'est Jean-Luc Mélenchon qui avait allumé la mèche ce week-end et c'est repris à la une du Parisien. Les aveux glaçants dans l'affaire de Delphine Jubilard, son mari, toujours incarcéré, aurait fait des aveux à ses co-détenus. Et puis dans Libération, un dossier qui fait froid dans le dos, geste suicidaire, hausse alarmante chez les adolescentes. Voilà ce qu'il faut retenir des grands titres de la presse ce matin. Tout de suite, nous retrouvons l'homme de la météo, mais pour sa fameuse rubrique Curieux comme Rémi, Rémi André, 6h37.
Sud Radio, Curieux comme Rémi, Rémi André.
Il est là, il n'a pas bougé. Après son point météo, 2021 a été une année particulièrement chaude, c'est vrai. Le service européen Copernicus de surveillance de l'atmosphère le confirme aujourd'hui. Les 7 années qui viennent de s'écouler ont été les 7 années les plus chaudes jamais enregistrées. Rémi, ce sont bien les 7 années successives les plus chaudes depuis que l'on fait des relevés météo, hein ?
Exactement, ces 7 dernières années ont été très clairement les 7 années les plus chaudes jamais enregistrées. C'est l'information principale à retenir des chiffres publiés hier par l'initiative européenne Copernicus de surveillance de l'atmosphère dans le cadre du changement climatique, C3S, même si 2021 se classe dans le peloton de queue de ces années les plus chaudes. Parmi les plus froides, entre guillemets, avec 2015 et 2018, et une température moyenne tout de même supérieure de 0,3 degrés à la moyenne de la période 1991-2020 et supérieure de 1,1 à 1,2 degrés à la moyenne pré-industrielle.
Est-ce que c'est homogène ? Est-ce que cette chaleur, c'est la même sur l'ensemble du globe ?
Alors non, évidemment, puisqu'on parle de moyenne, il y a des points plus chauds, il y a des points plus froids. Sur l'Europe, par exemple, l'année a été relativement plus fraîche, avec une température supérieure de seulement 0,1 degré à la moyenne de la période 91-2020. Elle n'entrera pas dans le top 10 des années les plus chaudes. Plus globalement, c'est sur la côte ouest des États-Unis et du Canada, jusqu'au nord-est du pays, du côté de l'Afrique centrale et au nord, ainsi que dans le Moyen-Orient, qu'il a fait le plus chaud. Mais des régions ont connu une année plus fraîche. Le Pacifique, par exemple, en lien avec le phénomène La Niña, qui a tendance à rafraîchir l'atmosphère, ou encore l'Australie et certaines régions de l'Antarctique.
Et si on partait en vacances en Europe, finalement, est-ce qu'en parallèle, les gaz à effet de serre ont augmenté également ?
Et là, oui, malheureusement. Les mesures satellites montrent que les concentrations en gaz à effet de serre dans l'atmosphère ont continué d'augmenter en 2021. Les niveaux de dioxyde de carbone, le fameux CO2, atteignent même un record annuel mondial d'environ 414 parties par million. Idem pour le méthane, le CH4, et son record fixé à 1876 parties par milliard, les fameux PPB. Au-delà de ces concentrations records, les experts attirent aujourd'hui l'attention sur un taux de croissance des concentrations en CH4 qui devient très inquiétant. Vous savez que le CH4 est plus polluant, en fait, a un effet de serre plus important que le CO2. Donc son augmentation, sa concentration devient inquiétante pour les deux années qui viennent de s'achever, respectivement d'environ plus 15 ppb en 2020 et plus 16 ppb en 2021. Un taux largement supérieur à ceux des 20 années précédentes.
Bon, il s'agit bien, on est d'accord, des conséquences de la consommation humaine des énergies fossiles, hein ?
Alors là, pour trouver la réponse, les chercheurs de l'initiative Copernicus précisent qu'ils travaillent dur à développer leur capacité à faire apparaître dans leurs chiffres les seules émissions anthropogéniques, c'est-à-dire qui sont liées à l'humain. De quoi nous aider à construire une société plus résiliente en mesurant directement dans l'atmosphère les impacts des mesures de limitation de notre empreinte carbone, c'est-à-dire qu'on va essayer de mesurer comment nous améliorons la situation, toutes ces limitations que nous pourrons donc prendre à l'avenir. C'est tout de même un enjeu très fort pour l'avenir, car nous en sommes arrivés maintenant avec tous ces développements et avec justement ces taux relevés, nous sommes arrivés à des records et cela se sent également. Vous savez que maintenant les pôles sont en train de fondre, nous perdons de nombreux glaciers chaque année, donc cette initiative Copernicus est quand même très importante.
Et pensons à notre descendance. Tiens, ça a donné une idée à John, notre réalisateur. Hein ? Ah bah oui, Joe Dassin. L'été indien, hein ? On y est, Rémi André. Non, c'est fini, là.
C'est fini, l'été indien. Maintenant, nous attendons le prochain été en espérant que, comme l'année dernière, il ne soit pas trop chaud.
Vous savez quelle année c'est, hein, ça, l'été indien ?
Oh là là, mon Dieu, on était dans les années 80. Là.
Non, vous n'étiez pas né, 75.
Oh là, j'étais pas né. Vous n'étiez pas né, pardon.
Merci Rémi André. Il est 6h42. Ça fait plaisir. Merci John d'avoir rejoué le grand Joe Dassin.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai. Le Loft Musique Sud Radio. Yvan Cujus.
Yvan Cujus sur Sud Radio. Un moment vraiment sympathique, c'est Yvan qui joue sur Sud Radio.
Bonjour Aldelaf, dis-moi ce soir, moi je te propose de venir dans le loft, mais si tu venais, tu prendrais ta guitare et puis tu nous parlerais de quoi par exemple ?
J'ai évidemment un 5 titres qui est toujours,
L'aventure continue, ça s'appelle. Ouais.
Une tournée, et un Trianon pour les 10 ans,
le 14 juin.
Voilà, de la sortie du Monde est beau, et puis d'autres spectacles parallèles. Enfin tu vois, je n'arrête pas Yvan.
Moi je suis ravi de te recevoir tout à l'heure, et puis je sortirai ma trompette, et puis on fera un quiz.
Ah je vais devoir y aller, je peux pas rester aussi longtemps que ça.
À tout à l'heure 20h, Aldelaf.
Le Loft Music Sud Radio 20h-21h, Yvan Cujus. Le Grand Matin Sud Radio, 5h-7h, Frédéric Brindel.
Il est 6h45, soyez les bienvenus dans un instant, Cécile de Minibus et Patrick Roger vous rejoignent, mais nous faisons un rappel des titres de l'actualité. Le Premier ministre modifie une nouvelle fois le protocole sanitaire à l'école. Face à la colère des parents et des enseignants, Jean Castex annonce que 3 autotests suffiront pour les élèves cas contact. Plus besoin de PCR ou d'antigénique. Si un cas positif est détecté dans la classe, les parents pourront aussi attendre la fin des cours pour dépister leurs enfants. Plus besoin d'aller les chercher immédiatement. Après une adoption mouvementée à l'Assemblée nationale, le Sénat commence aujourd'hui à se pencher en séance plénière sur le projet de loi instaurant le pass vaccinal. Hier en commission, les sénateurs, majoritairement à droite, ont fixé plusieurs critères pour encadrer, limiter le dispositif. Et puis Emmanuel Macron à l'offensive sur le thème de la sécurité. Le chef de l'État promet une rallonge budgétaire historique, 15 milliards d'euros sur plus de 5 ans. Il promet par exemple de doubler le nombre de policiers sur le terrain ou de créer 200 brigades de gendarmerie en zone rural. C'est l'heure de votre rendez-vous, hashtag on en parle. Et c'est une vidéo virale sur Twitter d'une rare violence qui fait le tour désormais des médias. Avec la même gêne pour nous tous, faut-il relayer cet acte abominable? Au moins en radio, vous n'aurez que le son. Oh. Il s'agit d'une vidéo tournée par un homme qui agresse deux piétons à bord de sa voiture. Nous sommes à Noisy-le-Sec, en Seine-Saint-Denis. Le conducteur, sous le regard de ses deux passagers hilars, attrape deux passants par la manche, les fait courir à côté de sa voiture avant de les relâcher. S'ensuit une chute violente et la plainte de l'un d'eux. Une vidéo relayée par les partisans d'Éric Zemmour dès dimanche, avec les thèmes autour de la violence dans les banlieues mis en avant. Et depuis hier, tous les twittos s'en emparent et parlent de tentatives d'homicide. On perçoit bien le drame évité de peu au moment de la chute, seulement blessé. Et aux surprises, l'auteur s'est révélé sur Twitter. Il est connu comme, je cite, le trou du cul de Noisy-le-Sec. Il habite Cité Rouge, premier étage, certifie ceux qui subissent ces faits de violence à répétition et qui révèle son nom et son prénom. Hier, grâce à une enquête policière rapide, cet homme a été placé en garde à vue. Finalement, tout s'est passé autour du réseau social dans cette affaire. La motivation de l'acte odieux pour être vu sur Twitter, l'utilisation de la vidéo à des fins politiques pour être relayé dans la twittosphère et au niveau du buzz médiatique. Enfin, l'aide à l'arrestation avec les informations livrées sur le réseau. Une nouvelle fois, la question du rôle du réseau social est posée et de la connerie humaine aussi.
Le Grand Matin Sud Radio 5h-10h, Patrick Roger, Cécile de Minibus.
C'est vrai que là, on dépasse les bornes. Bonjour.
Bonjour,
Frédéric.
Bonjour, Patrick.
Bonjour,
Frédéric. Oui, écoutez, ce matin, on va parler aussi des intempéries dans le sud-ouest. Hein. On prendra des nouvelles avec Rémi André tout à l'heure. Et puis, on ira voir au Pays Basque, mais également en Ariège, qu'il en est, quelle est la situation ce matin. Parce que toute cette région, quand même, depuis plusieurs jours, de fortes pluies. Et pas seulement les pluies, la fonte également des neiges dans les Pyrénées avec le radoucissement. Et donc une situation un petit peu compliquée. Ça fera partie de nos sujets du jour. L'un des autres sujets, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est toujours le Covid, avec d'un côté l'assouplissement des mesures à l'école. Alors il faut dire que c'était extrêmement compliqué. Là, on comprend un petit peu mieux, parce que
un petit peu mieux, mais pas
c'est
tout à fait.
Autotest. Ouais. Il y a des enfants qui commencent à en avoir un peu ras-le-bol quand même aussi. Autotests au passage, bien sûr. C'est vrai. Et puis, l'une des autres questions du jour, le pass vaccinal. Patrick Kanner sera avec nous, sénateur socialiste, puisque le pass vaccinal est au Sénat. Il sera donc avec nous tout à l'heure.
Et deux questions du jour avec hier Jean Castex hein, qui annonçait l'allègement de protocoles sanitaires à l'école. La question du jour, est-ce que vous pensez que c'est du cafouillage raisonnable, risqué pour le personnel? Pour l'instant, vous parlez de cafouillage. Continuez de commenter. Notre deuxième question ce matin, c'est sur Emmanuel Macron.
La sécurité.
Hier, ouais. À Nice, Emmanuel Macron veut doubler les policiers sur le terrain en 2030. Est-ce que c'est pour vous une priorité, une promesse de campagne, insuffisant ou une mauvaise idée? Une promesse de campagne qui prône à 78%.
Oui, c'est ça. Et à propos de campagne, vous le savez, de nouveaux rendez-vous depuis hier sur Sud Radio. Revel en campagne tout à l'heure sur la question des parrainages, ce sera à 9h. Et puis, c'est une nouveauté aussi, le fameux rolling. C'est la campagne en temps réel avec un sondage qui est renouvelé chaque jour. Hein. On vous l'a dit, on vous l'a présenté dans Les Vraies Voix hier soir. Alors, ce premier sondage, finalement, c'est un peu la ligne de départ. Et bien sûr, la ligne de départ, Emmanuel Macron est donné largement devant puisqu'il a 10 points d'avance sur Marine Le Pen, Valérie Pécresse qui est juste derrière, et puis ensuite un peu plus loin tout de même Éric Zemmour, puis Jean-Luc Mélenchon, et alors qu'à gauche ça patine encore.
Restez avec nous jusqu'à 10h et continuez de répondre à nos questions et appelez-nous 0826 300 300 tout de suite. Sud Radio à votre service.
Sud Radio à votre service.
Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises.
Et les entreprises, on en parle encore ce matin avec Corinne Duplat, directrice générale. Les menus services, bonjour Corinne Duplat.
Bonjour.
Vous êtes le leader spécialiste du portage du repas à domicile pour les personnes âgées. Quelle est la moyenne d'âge aujourd'hui de vos clients?
La moyenne d'âge de nos clients, c'est relativement âgé, 85 ans en moyenne.
Oui.
Donc une fourchette qui va de 80 à 100, voire plus.
Alors,
allez-y.
Non, j'allais dire, pendant la crise, il a fallu vous substituer forcément aux mères, aux familles, au chevet des personnes âgées, ce qui a forcément accéléré votre quotidien.
Oui, ça a été une période relativement compliquée pour nous parce qu'il a fallu faire face à une très forte demande des personnes âgées qui d'habitude étaient assistées par les familles, assistées par la communauté, se sont retrouvées complètement isolées. Et on a dû se substituer, on a fait plus de volume, nos livreurs et livreuses se sont déployés encore plus au quotidien. Et on a fait une très grosse année l'année dernière encore pour pallier à la solitude de nos bénéficiaires, clairement.
Donc du coup, votre travail c'est de vous adapter forcément aux contraintes alimentaires de chacun. Vous travaillez avec des nutritionnistes justement pour être au plus proche de leurs besoins et de leurs attentes?
On a des diététiciens et des diététiciennes dans chacune de nos agences. Et au siège, forcément, puisqu'on prépare nous-mêmes, on élabore, on réfléchit au menu qu'on va proposer à nos bénéficiaires. Et dans chaque agence, une diététicienne ou un diététicien va faire une évaluation du besoin de bénéficiaire et lui préconiser au mieux le menu qui lui correspondra, qu'il soit diabétique, sans sel, mixé, et puis avec, bien entendu, ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Donc, vraiment une offre très personnalisée au plus proche du besoin de bénéficiaires qui sont très souvent dénutris. C'est ça notre mission au quotidien.
Oui, c'est vraiment une fonction d'aide à la personne. Il y a aussi l'avantage de lutter contre l'isolement par ce biais.
Oui, tout à fait, parce que livreurs ou livreuses, c'est des livreurs ou livreuses qui apportent le repas simplement, mais qui vont veiller à ce que la personne aille bien, qu'elle réponde, qu'elle soit comme d'habitude, et donc on va relayer auprès des familles ou des personnes qui veillent sur nos bénéficiaires s'il y a un problème, si elle ne répond pas tout simplement. Donc on est des, j'aime bien dire, des veilleurs d'alerte au quotidien.
Oui, c'est ça, on alerte tout le temps. Les menus, j'imagine que forcément c'est de qualité. Vous les établissez comment? Est-ce que eux peuvent choisir? Comment ça s'organise?
Oui. On propose, on aime bien dire, une offre comme à la brasserie du coin.
D'accord.
Le bénéficiaire, le client va avoir le choix tous les jours entre 4 ou 5 composantes. Et après, on va travailler, si vous voulez, sur forcément ce qu'il aime. C'est ce que je disais tout à l'heure, ce qu'il n'aime pas aussi. Et des menus très, très spécifiques. Et surtout, des offres saisonnières, des offres locales et qui vont toute l'année permettre de varier les menus de manière à ce qu'il n'y ait pas de lassitude. On propose des menus à thème, on propose des semaines du goût, vous voyez, on va vraiment travailler pour que chaque jour...
Ça devienne un plaisir en fait pour eux.
Ouais, c'est ça, exactement, ouais, c'est ça. Que ce soit un plaisir de bien manger et surtout de toujours garder la forme, quoi, en clair.
Absolument. Alors là, le variant Omicron engendre beaucoup de difficultés importantes, en tout cas. Est-ce que vous avez été impacté par ce variant dans vos équipes?
Ça devient compliqué forcément, hein, parce que au quotidien, on a toujours des cas et des cas contacts. Oui. Ça veut dire que les équipes travaillent encore plus, ça veut dire que les équipes sont encore plus mobilisées parce que on livre tous les jours et il n'est pas question qu'on ne livre pas un seul jour. Donc, ça demande des ressources. On fait appel aussi aux personnes autour de nous qui peuvent pallier au quotidien. Donc, on s'adapte encore depuis 2 ans. C'est notre mission.
Et puis aujourd'hui, la maison grandit. J'ai envie de dire, puisque vous êtes plutôt 105 agences en France, ça veut dire que les objectifs, c'est quoi? C'est de 50 agences, 100 agences dans les années qui arrivent?
Ah mais clairement, on a une croissance d'une vingtaine de nouvelles agences par an,
oui.
Naturelle, c'est une belle croissance, mais je dis toujours qu'on veut mesurer, parce qu'on veut toujours bien travailler et de manière qualitative. Et puis l'année dernière, c'était un grand événement parce qu'on a ouvert la Suisse, donc on commence à se déployer un petit peu à côté.
À l'international, oui c'est ça.
À l'international, donc surtout fêté la 5e agence, c'était une belle année.
Et ouais. Ben bravo, merci beaucoup. Continue. Merci Corinne Duplat d'avoir été avec nous, directrice générale. Les menus, services et belle année. Et à vous, bien entendu. Restez avec nous, c'est le Grand Matin Sud Radio jusqu'à 10h et vos appels 0826 300 300 pour commenter l'actualité avec nous.
Sud Radio à votre service.
Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises.